c'est de vous éclairer sur le choix à travers à la fois notre expérience, mais aussi un retour d'expérience, puisque certains ont été sollicités par une de nos internes, donc Lorraine Kropka, dont je donnerai ici les résultats de son travail. Et puis, à travers donc deux cas cliniques, un peu la complexité de la prise en charge, puisqu'il y a un tripartite, il y a un spécialiste, un patient et un médecin. Alors, pour limiter notre propos, on va bien sûr exclure d'emblée les patients porteurs de prothèses mécaniques, les patients récemment stentés et les syndromes coronariens aigus qui font le plus souvent l'objet, bien sûr, d'une hospitalisation. Donc, on va évaluer ce matin donc le risque ischémique de la fibrillation atriale, le risque hémorragique. On va réfléchir ensemble comment faire pour choisir entre les deux grandes molécules que sont les AVK ou les antiagrégants plaquettaires, représentés ici par l'aspirine. Alors, le plan, je vais vous l'ai déjà décrit. Retour d'expérience, c'est donc le travail de mémoire de Lorraine, les cas cliniques par Amine Driade et je dirais deux plaques sur les nouveaux anticoagulants. Alors, quelle est la problématique? Pourquoi cette rencontre matinale? Les AVK, bien sûr, réduisent de 64% les risques thromboemboliques et l'aspirine en particulier que de 22%. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas du tout le même bénéfice attendu à prescrire l'une ou l'autre des molécules. Par contre, le risque hémorragique va bien sûr suivre le risque ischémique avec entre 2 et 10% de risque sous AVK qui va bien sûr dépendre du terrain et de l'âge. Les facteurs de risque de la fibrillation atriale, c'est l'augmentation au cours du temps et bien sûr les comorbidités. La sous-utilisation est retrouvée dans la plupart des grandes séries, y compris dans les grandes séries où il y a des cliniques de l'anticoagulation et en particulier chez les sujets âgés. Bon, ça c'est un petit rappel aussi important pour montrer que les AVC qui sont imputables à la fibrillation atriale, c'est 15 à 20%, avec effectivement plus de séquelles, ils sont généralement plus graves et une plus grande proportion de mortalité. Alors, quelles sont les recommandations si on fait un petit peu d'historique, mais c'est finalement ce n'était qu'hier, l'HAS disait comment faire? Confirmer la fibrillation atriale, donc sinusale, voire un Holter ECG, le type, sa sévérité, sa tolérance, y a-t-il un ralentissement hémodynamique? Et nous allons essentiellement travailler sur cet INSTEMS, prévenir et définir le risque thromboembolique. Donc, le risque ischémique a été identifié par l'HAS avec des antécédents dits à haut risque, accident vasculaire cérébral ou AIT, moins fréquemment, pardon, les emboles sur d'autres territoires que les artères à destinée encéphalique. Les patients, bien sûr, porteurs d'une valvulopathie, essentiellement le rétrécissement mitral, qui sera exclu du propos, je vous l'ai dit, et les prothèses valvulaires mécaniques. Les facteurs de risque dits modérés, c'est l'âge de plus de 75 ans, un antécédent d'insuffisance cardiaque et ou une hypertension, l'insuffisance cardiaque étant définie soit par un antécédent d'OAP, soit par une fraction d'éjection du ventricule gauche à 35%. Un diabète est également un facteur de risque modéré. Alors, comment a été identifié? Ce sont de grandes études qui ont permis de faire des statistiques et de sortir des petits p. Deux autres facteurs qu'on va voir apparaître au cours du temps, c'est le sexe féminin et la cardiopathie ischémique, indépendamment d'une insuffisance cardiaque, je le précise, ont été retrouvés comme facteurs de risque, mais sur ces études, elles étaient uniquement en analyse univariée et n'ont donc pas fait l'objet d'une reconnaissance en 2007 par l'HAS. Alors, qu'est-ce que l'HAS proposait en 2007? C'était assez simple finalement, pas de facteurs de risque. L'aspirine, la posologie étant laissée à l'appréciation du médecin en fonction peut-être d'autres données. Un facteur de risque modéré, on vient de les voir, c'était soit l'aspirine, soit les AVK, avec un INR cible entre 2 et 3. Un facteur de risque élevé, donc on va prendre l'AVC par exemple, ou au moins deux facteurs de risque modérés, c'était d'emblée les AVK avec le même INR cible, donc 2,5 avec un intervalle entre 2 et 3. Alors en 2001, est sorti le CHAST, donc c'est Monsieur Gage, donc c'est une étude américaine et c'est sur le National Register of Fibrillation Atrial. Donc c'est les patients qui sont suivis, qui sont déclarés au niveau enfin national. Donc c'est bien sûr aux États-Unis. Ce qui est important, c'est de noter l'âge très élevé de la base avec 58% de femmes. On a un oiseau parmi les auditeurs. 5 items pour un total de 6 points. Alors, quels sont les items? L'insuffisance cardiaque, on l'a vu pour l'HAS. L'hypertension artérielle donne 1 point. L'âge, comme l'HAS, est à 75 ans. Et un diabète, qu'il soit insulinodépendant ou diabète de type 2. Important, l'antécédent d'accident vasculaire cérébral ou ischémique transitoire donnait 2 points. Donc, on fait un total sur 6 points avec 5 items. C'est assez simple à retenir. Alors, quel est le risque ischémique en fonction du nombre d'items? Alors, j'attire votre attention, c'est-à-dire quand le CHAST est à 0, en théorie, il n'y a pas de facteur de risque, mais si on regarde la valeur, on a quand même 2% de patients qui vont faire sur une année un accident ischémique. Donc le score entre 0 et 1, il n'est pas assez fin et on verra dans l'évolution que ce score a été affiné. Alors le score finalement, il est progressif de 0 à 6 et on a une augmentation pas asymptomatique, mais bon, on voit bien que ça se multiplie de 0 à 2, on est à 4. Entre 2 et 4, on est à 8,5 et on double pratiquement tous les 2 points. C'est clair ou ça va pas trop vite, non? Alors, recommandation de l'HAS, donc je fais un petit retour en arrière, on l'a vu, score faible, donc non nul, hein, je vous l'ai montré à l'instant, on a 2%, pas de facteur de risque, aspirine intermédiaire, aspirine ou AVK, est supérieur ou égal à 2, 2 étant inclus, c'est AVK. Alors, je vous rappelle les grandes données de la littérature, que la plupart des études pardon, AVK versus placebo donnent bien sûr un bénéfice net en faveur, ici c'est la warfarine, donc la coumadine. L'analyse moyenne, donc on est à 64%, je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction. Pour l'aspirine, ben, ça fait un petit peu moins bien, hein. On a bien vu qu'on est à 22%, ça fait mieux que rien, mais c'est quand même beaucoup moins bien que les AVK. Très intéressant ce papier qui montre le bénéfice attendu donc de la coumadine en fonction de l'âge. On voit qu'en dessous de 65 ans, finalement, le traitement par AVK d'une ACFA n'a pas forcément lieu d'être, et c'est même pratiquement maintenant certain. Pour l'âge de 65 à 74 ans, le bénéfice, il est peut-être positif, mais l'intervalle, il passe autour de 0, donc c'est quand même discutable. À 75 ans, là, bien sûr, on est au-delà de 0, on est à 1, entre 0,4 et 1,40, et le bénéfice est très élevé à plus de 85 ans. Donc, on voit que le bénéfice augmente avec l'âge, ce qui est un petit peu contradictoire, puisque c'est généralement, on fait le contraire. On a un surtraitement des patients qui n'en ont pas besoin, et ceux qui en ont vraiment besoin ne sont pas ou insuffisamment traités. Là, c'est le même travail, entre guillemets, mais en fonction du score ischémique. Donc entre 0 et de 4 à 6, plus le score ischémique est élevé, bien sûr, on vous l'a montré, plus le bénéfice attendu de la warfarine est élevé. Est-ce que ce score peut être utilisé à autre chose? Donc je vous l'ai dit tout à l'heure que les AVC en rapport avec une ACFA sont de mauvais pronostics et le score au-delà de 2 est associé avec mauvaise récupération entre guillemets de l'AVC. Et au-delà de 2, effectivement, l'autre ratio est à pratiquement 2. On a un pourcentage important de risque de décès quand le CHAS calculé à l'entrée, donc c'est-à-dire avant que le patient ait fait son AVC, de décès. Les Canadiens travaillent beaucoup sur le coût des hospitalisations et on voit qu'effectivement, plus le score CHAST est élevé, donc avant l'AVC, je redis bien, plus le séjour hospitalier, entre guillemets, induit par l'accident vasculaire augmente. Donc en fait, entre un score à 0, donc on aurait mis au mieux de l'aspirine, et un score à plus de 2, le séjour est multiplié par 2. Donc c'est en lien avec la gravité, bien sûr, de l'accident vasculaire. En 2010, donc Jean-Dominique de Corvin vous a dit que des nouveaux scores étaient apparus, 2001, 2007, 2010. Le score dit CHAS-VAS, c'est un dérivé du CHAST, avec donc la même définition. Bon, on était à 35, on est à 40%. L'hypertension donne toujours un point. On a mis en rouge ce qui était nouveau. Historiquement, donc c'était un point, vous l'avez vu, pour l'âge supérieur à 75. Mais dans la plaque précédente, vous avez vu que le score augmente en fonction de l'âge. Donc il est devenu 2. L'âge de plus de 65 ans reste donc ici et requalifié en 1. On a vu apparaître un point pour le sexe féminin et les emboles autres que vasculaires, hein, donc c'est ici l'infarctus, l'AOMI et des plaques athéromateuses sur l'aorte, donnent un point. Le reste est inchangé, pardon, le diabète en particulier. Alors, quelle est l'augmentation du risque en fonction du score? Je reprends donc la chose, entre guillemets, le point zéro. Là, quand le score CHA-SVAC est à zéro, le risque est effectivement nul. En tout cas, rien n'a été observé. Il est globalement proportionnel, même si ici, il y a une petite ascension qui est un petit peu lente et deux valeurs discordantes à ce niveau-là. Ce n'est pas des scores exacts, hein, bien sûr, c'est des recueils sur des bases de patients. Alors, contrairement à ce qu'on avait vu, l'âge moyen est à 66 ans. Et à 80 pour le CHAST tout court. Donc ce ne sont pas les mêmes populations. Alors qu'est-ce que définit donc les nouvelles recommandations? On calcule le CHAST 2. Il est d'emblée supérieur à 2. On ne discute pas, finalement c'est assez simple, on fait des AVK. Il est à 1 ou 0. On s'intéresse à l'âge du patient. On vient de voir que 75 ans et plus donne 2 points, donc c'est AVK. Il a moins 75 ans. On regarde donc les facteurs de risque non majeurs ou dits mineurs, et en fonction de l'existence de 1 pardon, ou de 2 risques majeurs, c'est soit AVK mieux que aspirine, soit rien si on n'a aucun des facteurs de risque. Alors, on fait de la petite publicité pour le recours à la coumadine qui fait l'objet des recommandations. Le Préviscan, bien sûr, n'a pas sa place dans le modèle anglo-saxon puisqu'il n'y a pas de publication sur cette molécule. Et dans la tranche des 70-90 ans, il existe un ABAC assez simple pour obtenir dès le troisième jour la posologie optimisée chez le patient en sachant que 95% des patients sont bien ciblés par l'ABAC. On vient de voir l'évaluation du risque ischémique. Qu'en est-il du risque hémorragique? Alors, je rappelle cette plaque est importante puisque lors de la thèse de Lorraine Kopka, le professeur Alliot avait bien insisté que le temps dans l'intervalle 2-3 était fondamental et que même dans les grandes études, y compris les études internationales, on n'avait que 60 à 70% de patients qui étaient dans l'intervalle. Donc, l'efficacité des AVK s'évalue sur ce temps passé. Et souvent, c'est un petit peu oublié dans la discussion. Quand on est en dessous de 2, c'est le risque ischémique qui prime et donc le risque d'AVC. Au-delà de 3, pardon, on voit que très rapidement, le risque hémorragique, en particulier ici d'hémorragie cérébrale, est ascensionné. Donc ça reste bien une molécule avec un index thérapeutique très étroit et la publication n'est pas récente. Bien sûr, ça ne changera pas au cours du temps. Alors malheureusement, plus on descend vers l'Europe du Sud, moins le temps passé dans l'intervalle est important, c'est-à-dire 60% pour la France, 60% pour l'Italie quand on est dans les centres de la clinique des AVK et 80% quand on est dans l'Europe du Nord, suivi par un médecin généraliste. Alors, stratification du risque hémorragique, dont on vous présentera deux scores. Le score Hemorrhage, toujours à partir de la même base, hein, c'est le même praticien ou chercheur. Là, c'est donc la même moyenne d'âge. On avait vu 81, bon là, c'est 80. Les items, alors il est un peu plus long, c'est un acronyme, hein, Hemorrhage. L'âge, 75 ans, on le retrouve dans le score ischémique. Une atteinte hépatique sévère, alors elle était définie soit comme une cirrhose, ou une hépatite évoluée ou terminale. Donc la traduction n'est pas très facile. L'insuffisance rénale sévère était définie ici en millimoles, je l'ai converti en milligrammes, donc c'est quand même très sévère. Avec un poids standard, on est en dessous de 20 millilitres par minute hein, pour le MDRD ou le Cockcroft. L'éthylisme chronique ne faisait pas l'objet d'une définition dans ce travail initial. L'HTA dite mal contrôlée non plus. L'anémie, ben, c'était le seuil en fonction du sexe et de l'âge. L'excès de risque de chute avait deux items, les 10 patients dits déments et ou un exemple comme la maladie de Parkinson. L'hospitalisation pour un bilan de chute, par exemple, ne faisait pas partie de ces critères. La thrombopénie, sans condeuil de seuil, on sait bien qu'à 100 000, ce n'est pas le même risque qu'à 7 000. Et un traitement anti-agrégant plaquettaire, que ce soit l'aspirine ou clopidogrel. Facteurs de risque génétique ne sont pas étudiés couramment. L'existence d'un cancer, on ne précise pas si c'est un cancer ancien, guéri, évolutif ou en rechute. Et on revoit réapparaître l'antécédent d'AVC ischémique dans le score hémorragique et ou un antécédent d'accident hémorragique sans qu'on précise la nature de l'hémorragie, mais simplement le recours à des transfusions. Bon, il est donc un peu moins précis, mais il est beaucoup plus large dans la panel, dans le panel des items que vous pouvez rencontrer chez vos patients. Alors, le score, ben, c'est un peu comme le score ischémique, il est proportionnel, mais on voit aussi là, comme pour le premier score CHAS, qu'à 0, eh ben, on a quand même un risque hémorragique qui n'est pas nul, il est à 1,9. Donc, celui-ci n'a pas eu son heure de gloire, il a fait l'objet d'aucune recommandation. Deux travaux l'ont utilisé, notre service et puis un papier de gériatrie. Le score donc, de 2010, donc des recommandations de l'European Society of Cardiology, même population, hein, on voit 66 ans. Alors, il est peut-être plus facile et il est plus progressif. L'hypertension, là, on a à peu près le même niveau de créatinine. Hein, on avait vu 25 pour l'autre, là, on est à 23. L'atteinte hépatique est mieux précisée, c'est une bilirubine totale fois 2. La limite supérieure, pardon, associée à une cytolyse hépatique définie par une ou l'autre, au-delà de 3 fois la valeur supérieure. Un antécédent d'AVC, une hémorragie, un INR instable est défini par moins de 60 INR dans l'intervalle de 2 à 3. Un point pour les patients de plus de 65 ans. Des drogues qui ne sont pas, bien sûr, le cannabis, etc. C'est les médicaments qui interfèrent avec les AVK ou les patients éthyliques, pardon. Le score est comme le précédent, donc jusqu'à 9. Alors, qu'en est-il? Donc, dans la base, finalement, il n'y a pas de patient qui avait des scores supérieurs à 5. D'accord? On voit là aussi, hein, comme pour le précédent, qu'à 0, on a quand même, dans la population générale, un pourcentage de patients qui font des accidents hémorragiques. Et c'est assez progressif. Mais je redis bien, dans la base, il n'y a personne qui a un score supérieur à 5, en tout cas, ce n'était pas écrit, tout était à 0. Donc, on vous présentera un patient ou une patiente qui avait un score supérieur à 5. Alors, en comparatif, je vous ai donné l'exemple d'une patiente qui peut tout à fait arriver chaque matin aux urgences et se retrouver en médecine H parce qu'elle a 85 ans, elle a fait 4 chutes, elle commence à avoir des troubles cognitifs. Et elle a une thrombopénie, on peut la mettre à la valeur que vous souhaitez, hein, ça peut être 50 000, et une fonction rénale qui est déjà bien altérée, mais qui n'a pas atteint les 25 ou le 23 ou les 25 de créatinine, pardon, ce qui nous fait un score à 3 dans le score hémorrhage et un risque calculé théorique, bien sûr, de 8,4% d'accidents hémorragiques à l'année. Si on prend le nouveau score qui était dans une base de sujets jeunes, hein, je vous le redis, c'était 66 ans, la même patiente n'a qu'un item, ce qui est lié à l'âge. Et le risque théorique, donc dans ce score, il est de 1%. Donc la même patiente avec deux scores, hein, puisqu'on n'utilise pas les mêmes items, là on voit la démence et les chutes, la thrombopénie, là ce n'est pas du tout reconnu, et il s'agit bien sûr de la même patiente. Alors, comment réduire le risque hémorragique? Ben, c'est effectivement tout le travail qui vous incombe, puisque le plus souvent, la prescription est hospitalière ou par un spécialiste. Et on vous renvoie le bébé, en l'occurrence ici, la dame âgée, avec un carnet des AVK, et vous êtes censé vous débrouiller, ce qui n'est quand même pas toujours très, très sympathique. Alors, le patient, la première des questions, est-ce qu'il va être observant? Parce que finalement, prescrire des AVK, c'est tous les jours. Peut-on l'éduquer? On en a parlé hier dans les rencontres avec la médecine générale. Est-il adepte de l'automédication? On peut maintenant acheter l'ibuprofène, entre guillemets, sans prescription. Et bien sûr, ça fait partie des médicaments qui interfèrent avec les AVK. Comment sera son suivi des INR, à la fois par le médecin? Est-il surbooké? Le patient va-t-il interpeller le médecin si jamais il n'y a pas eu une analyse ou une adaptation? Est-ce qu'on peut compter sur un membre de la famille? Parce que finalement, la dame elle commence à être démente, elle fait des chutes, mais on peut peut-être éduquer le mari ou les enfants. Est-ce qu'on a vraiment pris le soin d'évaluer son bilan de chute finalement? Est-ce que la cause était-elle curable et finalement le risque a disparu? Ça, c'est votre travail. J'aurais pu mettre 4 étoiles finalement. Est-ce que dans mes prescriptions, je tiens compte des avis, des interactions avec les AVK? Et est-ce que j'ai bien traité son hypertension? Est-ce qu'on ne peut pas l'optimiser pour éviter qu'elle fasse un accident hémorragique? L'évaluation de la fonction rénale, on l'a vu, c'est très tardif. Bon, quand on a une créate à 25, je crois qu'on se pose déjà des questions. Et puis l'évaluation cardiologique n'est pas toujours retrouvée à l'interrogatoire des médecins parce qu'ils sont souvent âgés et ils ne sont pas toujours non plus mobilisables ou déjà même en institution. Alors choisir AVK ou aspirine, donc jusque-là c'était très facile grâce aux algorithmes. Donc je ne le redétaille pas, vous l'avez vu tout à l'heure. Et une belle étude faite en médecine générale, c'est pour ça qu'il me semblait important de vous la montrer. Primary care est venu un petit peu renverser l'algorithme précédent. C'est donc le BATFA study. C'était des sujets âgés. Hein, la moyenne d'âge était 81 ans. Ils ont été suivis pratiquement pendant 3 ans. On leur donnait un INR cible à 2,5 ou de l'aspirine à faible dose, hein, donc quasiment la plus petite dose. Bon, il y avait sûrement un biais de recrutement, mais bon, ça paraît quand même. On l'a dit, on avait exclu les valvulopathies rhumatismales de notre propos. Les hémorragies majeures dans les 5 cas, dans les 5 ans, pardon, les gens qui avaient saigné dans leur tête, un ulcère peptique, des varices œsophagiennes ou une HTA très mal équilibrée. Bon, effectivement, on serait un petit peu fou d'aller prescrire des AVK sur ce terrain. Alors, qu'en est-il? C'est aspirine versus AVK. Globalement, la mortalité est similaire. On fait deux fois plus d'AVC sous aspirine, ça ne nous étonne pas. On fait autant d'accidents hémorragiques intracrâniens, parce que ce n'est pas significatif, et un peu plus d'embole systémique. Beaucoup plus intéressant, si vous faites la somme de ça, plus ça, plus ça, ça fait 4,9% donc hémorragique ou ischémique en faveur des AVK, et on est à 10% dans le groupe aspirine. Donc la réduction du risque relatif est de 50% au bénéfice des AVK dans une population âgée, suivie en médecine de ville, bien sûr, en ayant trié un peu nos patients, mais bon, hémorragie cérébrale, ulcère, on sait faire, hypertension, je crois que il y a des recommandations sur ce fait. Donc ça, c'est devenu compliqué, mais finalement, les gens sont très pragmatiques. Qu'est-ce qu'ils écrivent que c'est la Mayo Clinic qui a fait un peu l'analyse critique des traitements et des facteurs de risque en lien avec l'ischémie et l'augmentation du risque par les AVK. Ils ont dit qu'en dehors de l'âge, il n'y a pas d'association suffisamment forte entre un des items et le risque hémorragique. Donc, qu'est-ce qu'ils ont conclu? C'est la conclusion du papier. La décision de prescrire de la coumadine doit être plus liée au risque ischémique, propre à chaque patient, donc c'est personnalisé, défini ici par le CHAS, puisque c'est un travail historique, hein, c'est une revue de la littérature, que par le risque hémorragique. Alors les conclusions, on les retrouve dans les conclusions de 2010. Elles renforcent donc le poids du score ici de CHAST et CHAS-VASC. La molécule de référence, je le redis, c'est bien la coumadine. Pour la première fois, les cardiologues se sont intéressés au risque hémorragique avec un score qui est discutable puisque c'est la population, l'âge moyen c'est 66 ans. Cependant, dans l'analyse rigoureuse, le pouvoir prédictif de ces scores, qu'ils soient ischémiques pardon, ou hémorragiques, il n'est que de 60 à 70%. C'est-à-dire qu'il y a des items que nous n'avons pas identifiés et que vous avez certainement, vous, dans votre connaissance, le risque de chute par exemple a disparu dans ce score, il était présent dans le score hémorrage. Voilà, il ne concerne que les patients non valvulaires et exclut les prothèses mécaniques. Nous, nous sommes intéressés, puisqu'on rencontre beaucoup de patients qui viennent en hospitalisation pour des bilans de chute. Si on a identifié la cause de la chute, l'item doit sauter, entre guillemets, dans l'évaluation du risque hémorragique. Le travail de Lorraine Kromka me paraissait intéressant, puisqu'elle a sollicité donc des praticiens pour connaître leur connaissance des différents scores et de leur praticabilité. Donc je passe. La méthode, c'était des questionnaires papier en rappelant qu'est-ce que les scores, en donnant des grilles. Bon, les grilles étaient données. On avait rajouté aussi la classification CHA-DS-PUG pour les patients qui ont une hépatopathie. Et on demandait aux médecins de voir si virtuellement, bien sûr, sur des dossiers, ils auraient changé leur comportement une fois qu'ils ont calculé les deux scores chez leurs patients. Alors, résultat des courses, les médecins Au lieu de 30, on en a eu 13, mais ils ont quand même réussi à remplir 112 questionnaires. Donc c'est quand même très, très intéressant. 1 sur 13 connaissait le CHAST. Donc c'est une enquête de l'année dernière, je le précise. 1 sur 13 connaissait le CHAST, mais 12 sur 13 ont dit qu'il est facilement applicable. Donc c'est quand même assez remarquable. Aucun commentaire, puisqu'il y a une satisfaction globale sur ce score. Concernant le score Hemorrhage, aucun ne le connaissait. Là, l'enthousiasme est un petit peu moins marqué, 8 sur 13. Et les commentaires, c'est il est long. Les items, ce n'est pas si simple, effectivement. Ils ont bien pointé qu'est-ce que c'est qu'un risque de chute. Et finalement, la notion d'éthylisme chronique, bon, on l'a définie selon l'OMS, mais ce n'est pas si simple à recueillir en médecine générale. Alors que nous, on peut le faire, et encore, l'interrogatoire, on voit bien que d'un jour sur l'autre, il est fluctuant chez nos patients. Alors, quelle était la population étudiée par nos médecins, enfin, vous, les médecins? Ben, effectivement, ils étaient à risque ischémique, hein, pour la plupart, et autant, malheureusement, classiquement, hein, puisqu'il y a à peu près deux tiers des items communs, à risque hémorragique. Donc, c'était un beau travail proposé. Qu'est-ce qu'ils ont fait, donc, les collègues interrogés? Au-delà de deux, hein, je vous rappelle. C'est AVK. À l'époque 2007, donc c'était soit AVK, soit aspirine. Et comment ça s'appelle ça donc, alors, traitement maintenu, donc ça ne se discute pas ici, puisqu'on est là. Là, c'est discutable, mais c'est accepté. C'est soit aspirine, soit AVK. Là, c'est discutable, hein, puisque CHAST à zéro, sauf le patient valvulaire, il y a deux patients qui n'auraient pas dû avoir, en tout cas si les dossiers étaient bien exploités. Bon, le maintien ou non des AVK n'a pas été justifié, sauf chez un patient éthylique. Qu'en est-il du score hémorragique? Alors, je vous rappelle, à zéro, on a bien sûr un risque important, hein, enfin non négligeable, pardon, à 2%. Donc, on voit que la population explorée est intéressante, puisqu'elle balaye de nombreux patients avec des scores élevés. Hein. Mais bon, bien sûr, proportionnellement, ça diminue quand on arrive en haut. Il y a un bon sens qui est de ne pas maintenir les AVK quand le score est très élevé. Alors, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Effectivement, 11 arrêts des AVK sur le selon, c'est des arrêts théoriques, hein, bien sûr. 6 pour un score qui ne justifiait pas les AVK, donc ça, c'est conforme aux recommandations. On avait le choix entre l'un ou l'autre, je le rappelle. Et 5 avaient un score élevé, justifiant le maintien ou non. Et un patient éthylique a été justifié, en théorie, bien sûr, pour l'arrêt des AVK. Donc c'est du virtuel, hein, c'est des dossiers virtuels. Alors globalement, qu'est-ce qu'on peut retenir? Le score CHAST est bien accueilli par les médecins généralistes interrogés. 13 médecins, mais 112 fiches. Je rappelle qu'il s'applique aux non-valvulaires. Donc il nous faut connaître l'existence ou non d'une échographie cardiaque, valvulopathe. Le score hémorragique est moins bien perçu, mais c'est un peu normal. Il a fait l'objet d'aucune promotion, si ce n'est que pour les gens qui s'intéressent à ce type de score. Les items restent à définir. Hein. Qu'est-ce qu'un risque de chute? Ce n'est pas limité aux patients déments et aux parkinsoniens. L'atteinte hépatique mériterait d'être précisée et probablement que c'est un peu excessif d'attendre une clearance, enfin une créatinine à 25 pour se poser la question est-ce qu'il faut maintenir ou non des AVK. La thrombopénie à 7 000, bien sûr, il y a un risque. À 110 000 ou même à 130 000, je ne pense pas que ce soit vraiment un item intéressant. L'observance apparaît dans le score HBLED avec l'équilibre des INR défini comme satisfaisant si on a au moins 60% d'INR dans la fourchette de 2 à 3. Alors, je vais donner la parole à Amine Driad, à moins qu'il y ait des. Oui, on a du temps, hein, effectivement. J'étais un peu rapide, mais. Alors. Sur le truc.
Bien, vous avez vu que ces scores, c'est à la fois simple et compliqué.
Qui a participé à l'enquête qui a été sollicitée par Lorraine?
Non,
Non.
personne. Allez-y.
Est-ce qu'on a fait la même enquête chez les cardiologues dans la prescription? Parce que c'est souvent eux qui indiquent. Est-ce que les cardiologues font le calcul?
Alors, de toute façon, toutes ces séries, en particulier pour le CHAST et CHAVAS, c'est des populations cardiologiques. Donc déjà, vous voyez, il y a eu une étude qui a été montrée par Michel Forbien, qui est l'étude en médecine générale avec aspirine. Mais dans cette étude, on a quand même très soigneusement écarté beaucoup de facteurs de risque hémorragique, l'ulcère peptique, les hémorragies anciennes, les AVC hémorragiques. Et donc, évidemment, on diminue la part du risque hémorragique des AVK et évidemment, les AVK sortent devant l'aspirine. Donc, c'est un petit peu le problème, c'est que c'est des positions très cardiologiques, donc très en faveur du risque ischémique. En plus, ce qui est souvent perçu, c'est dans le risque hémorragique intracrânien et très peu le risque hémorragique périphérique. Et encore une fois, les complications hémorragiques, ce n'est pas les cardiologues qui les voient. C'est comme moi, je suis aussi gastro-entérologue. Les gastro-entérologues, ils disent jamais donner d'AINS parce que c'est eux qui voient les complications hémorragiques, mais les rhumatologues, ils ne les voient pas. Donc c'est, chacun voit un peu ça de son point de vue. En plus, comme l'a très bien dit Michel, ça n'estime qu'à 2/3 le risque véritable. Donc vous pouvez très bien avoir des patients qui se trouvent borderline. Et le fait d'utiliser un score ou un autre les fait passer dans un risque hémorragique plus important ou moins important. Donc c'est une décision qui se prend maintenant, qu'on prend, la suite aussi de ce travail de mémoire et de thèse, avec le médecin généraliste, qui est quand même celui qui connaît le mieux le patient, et souvent c'est pris sans le médecin généraliste, y compris à l'hôpital, on est les premiers à faire mieux à culpa, avec le médecin généraliste.
Ça a changé depuis la thèse quand même.
Et avec le cardiologue. Et il faut bien peser les choses, sachant que les cardiologues pèsent surtout le risque ischémique. Voilà.
Est-ce que vous êtes sollicité par les cardiologues, en dehors d'un tableau aigu, pour partager la décision, et est-ce que vous vous sentez capable de réévaluer, maintenant que vous avez des scores, au cours du temps? Parce que l'objectif, c'est de vous approprier les outils, et une fois par an, de faire le ménage, entre guillemets. Il est devenu un peu plus âgé, effectivement, il a pris un point parce qu'il avait 74 ans l'année dernière, il en a 75, ou sa fonction rénale, elle s'est aggravée, ou les coqueurs, je ne l'ai pas faite depuis un moment, il faudrait peut-être que je discute avec le cardiologue.
Alors, Il faut rappeler que ces scores sont surtout utilisés pour l'indication d'introduction du traitement. Et l'utilisation dans le suivi est un problème, ce n'est pas validé. Donc, il faut vraiment se poser la question avant.
Oui, dans cette étude, on n'aborde pas du tout la phase préanalytique, parce que l'INR, surtout en rural, on doit tenir compte, si on veut suivre l'INR chez les patients, c'est le problème de la phase préanalytique, en rural en particulier.
Les personnes âgées ne vont pas au laboratoire. Pas l'autre. L'autre est mieux, je pense.
Donc, vous voyez, donc là, effectivement, dans le score hémorragique, c'est un patient dont on sait qu'il a eu déjà des AVK et qu'il a été traité. Donc, faire attention à la façon dont on utilise ces scores. Et je pense...
Alors, il y a un travail qui a été fait par les Canadiens. Bon, je voulais vous donner vos propres résultats. Donc, j'ai pas mis de slide sur ce fait. Les médecins canadiens disent que ce que vous pourriez dire, c'est finalement, souvent, c'est initié par l'hôpital. Le CHAST, tel que je vous l'ai montré, n'est pas assez discriminant. Et dans l'intervalle, entre 2007 et 2010, les recommandations, c'était quand on mettait de l'aspirine ou AVK, c'est devenu AVK. Ouais, des fois, aspirine, mais bien moins. Donc, il y a encore probablement une évolution des scores. Ce n'est pas figé. On voit bien que là... entre hémorragie qui est à 2 pour le même patient et puis à 10 pour le même patient et à 2 pour le HBLED, on est loin de la réalité. Elle est peut-être entre les deux, certainement.
Madame.
Oui, j'avais une réflexion par rapport à vos scores. Ce qui manque un petit peu, finalement, c'est au niveau de l'arbre décisionnel, c'est-à-dire quoi faire quand un patient a un risque hémorragique très fort et un risque finalement ischémique très fort.
Bonne remarque.
Alors, on va vous montrer un cas pour justement vous montrer qu'on peut s'en sortir grâce à vous en particulier, grâce à nous aussi quand même.
Alors, avant que Camille vous présente le cas, juste un commentaire. Avec le CHAT de Vasque, on augmente la proportion de patients qui va être sous AVK. Vous avez vu, l'âge de plus de 75 ans compte 2 points, etc. Donc, ce qui fait que tous les patients de plus de 75 ans doivent être traités. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle on introduit un score hémorragique pour essayer de pondérer ça. Mais vous n'avez pas l'algorithme qui vous permet d'utiliser l'un et l'autre et de décider.
Non, dans les recommandations, c'est une demi-page sur le risque ischémique, donc le risque hémorragique. Les cardiologues ne se sont pas mouillés. Ils ont dit, ils sont âgés, il y a des items qu'on ne maîtrise pas, c'est personnalisé.
Alors, néanmoins, on considère, et c'est aussi dans les papiers, qu'avec un score HSBLED au-dessus de 3 à 4, on a un risque hémorragique. Donc finalement, la décision, elle va ensuite être du domaine de l'individu, où on a un score, mettons, à 2, et puis un score HSBLED à 3-4. il y a tous ces éléments qu'il faut prendre en compte, et comme vous l'a très bien dit Michel aussi, des choses qui apparaissent dans le score hémorrhage et pas dans le score HSBS, comme les chutes, qui sont un vrai problème. On sait très bien que dans notre pratique habituelle, et quand on reçoit un malade qui est chuteur, même s'il n'a pas une maladie de Parkinson ou une démence, on a tendance à dire, oula, il va chuter, donc il va avoir un risque hémorragique, donc on a plutôt tendance à switcher les AVK vers l'aspirine. Or, ces chuteurs sont des gens qui ont plus de 75 ans, souvent plus de 80 ans, et vous avez vu que le risque d'accident hémorragique, d'accident ischémique, il augmente de façon colossale. Donc, ce n'est pas simple.
Juste aussi une petite remarque, dans la discussion du HBS qui fait 60 pages, il faut quand même les lire, il était question de mettre 2 points pour les plus de 85 ans. Et ouais. 1 point pour les plus de 75
ans. C'est pas mauvais.
Ça aurait été une très bonne idée. Le seul problème, c'est des plus de 85 ans dans la base. Il n'y en avait pas énormément et donc ça a été rejeté. Mais c'est juste pour montrer qu'il faut l'affiner. Et c'est peut-être aussi un travail qui pourrait être fait finalement en médecine primaire, entre guillemets. Alors, Amine va nous présenter 2 cas, un où c'est simple et un où c'est un peu plus compliqué.
Donc nous allons décrire 2 situations cliniques qui reflètent la réalité à laquelle...
On n'a pas d'habilleuse, maintenant c'est interdit les habilleuses, raison que vous imaginez.
Merci bien. Donc nous allons décrire 2 situations cliniques à laquelle nous avons été confrontés, en fait qui reflètent bien la réalité à laquelle vous êtes confrontés, nous sommes confrontés au secteur hospitalier et surtout à laquelle vous êtes confrontés durant votre pratique quotidienne, étant donné que vous êtes les premiers acteurs à intervenir et c'est vous qui assurez le suivi. Donc le premier cas est relativement simple, c'est une dame de 74 ans qui nous a été adressée par le médecin traitant pour prise en charge d'une anémie microcytaire régénérative avec un taux d'hémoglobine à 8,4. Donc compliqué d'un premier épisode d'ACFA avec une décompensation cardiaque globale. Donc les antécédents de cette dame étaient marqués par une hypertension artérielle, une obésité donc avec un indice de masse à 31 kg par mètre carré, une prothèse totale de hanche, une dépression. On ne retrouvait pas d'intoxication éthylo-tabagique. Donc son traitement comprenait un hypocholestérolémion, du Prozac pour sa dépression. Donc un demi-comprimé de Lexomil, l'efferalgan estroctum pour donc ses douleurs arthrosiques. À l'arrivée dans le service, donc la patiente présentait une décompensation cardiaque gauche avec une hypertension artérielle. Saturation était correcte à 94% en air ambiant. Sur le plan biologique, on retrouvait une anémie qui était microcytaire, hypochrome, régénérative, en faveur d'une carence martiale. On ne retrouvait pas de syndrome inflammatoire, TSH était normal, la sérologie Helicobacter pylori était négative. Le reste du bulon retrouvait une légère thrombocytose réactionnelle avec un TP qui reste bon. Quelques stigmates de dénutrition avec une hypoalbuminémie et une préalbumine basse. Le bilan hépatique et le bilan rénal restaient corrects, donc un BNP reflétant une compensation cardiaque gauche. Donc, comme examen complémentaire, elle avait bénéficié d'un électrocardiogramme qui montre une ACFA donc à 90 cycles par minute. L'électrocardiogramme réalisé 15 jours auprès du cardiologue donc retrouvait un rythme sinusal. Elle avait bénéficié également d'une échographie cardiaque lors de cette consultation qui montrait pas de cardiopathie emboligène ni de dilatation de l'oreillette gauche. L'FEVG restait correct. Une gastrocoloscopie est en cours, hein, donc elle a pas encore, donc elle l'aura les jours qui vont suivre. Donc devant cette situation, donc qu'est-ce que vous ferez donc à notre place, par exemple devant une dame, ouais. Voilà, donc une dame, donc âgée de 74 ans, présentant une anémie, donc carence martiale, ce qui veut dire qu'il y a un saignement, et qui présente donc une ACFA, donc la première de nouveau, hein. Avec une insuffisance cardiaque gauche.
Des commentaires? Alors, docteur Doron-Mémon attend
le bilan. Vous différez en fait la prescription en fait.
Bilan digestif parce que.
Bah, s'il y a des éléments hémorragiques au niveau gastrique, je ne suis pas tenté par les AVK.
D'accord.
Madame.
On pourrait transfuser, traiter son. De décompensation.
Bien sûr.
C'est une très bonne remarque. Ouais. Effectivement, il faut déjà la transfuser.
L'épisode de décompensation cardiaque et voir si l'ACFA se maintient. Mm-hmm.
Donc, c'est ce qui a été fait. On a eu KJ15, le CGT sinusal a été transfusé. Donc, c'est une ACFA. KJ. C'est quand même une ACFA.
Mais tous les gens qui sont anémiques ne font pas une ACFA.
avant la gastrocolo. Est-ce qu'un médecin
vous attend
traiterait sans avoir fait les scores en disant ben la gastro c'est pas demain, le temps de voir le cardiologue, il y a un risque de faire un AVC, finalement je la mets sous AVK puisqu'elle est sortie avec 12 grammes d'hémoglobine de médecine H.
La proposition d'HBPM. Alors l'inconvénient des HBPM, c'est que ça n'a pas d'AMM, déjà dans la fibrillation atriale. C'est d'un maniement, certes, peut-être plus aisé, mais donc déjà, on ne sait pas certain que c'est efficace, et c'est quand même, il y a quand même un risque hémorragique. Alors ça dépend à quelle dose tu les donnes, mais...
Bon, on va vous aider un petit peu. On peut quand même commencer par...
Si on la donne à dose curative.
Oui. Ou la Rixtra.
On met, voilà.
Alors, on va essayer de céder avec les scores. Hein, puisque...
c'est l'objectif justement de notre présentation, c'était justement ces scores. Donc, à gauche, on a le score CHATS2, donc, qui retrouve quand même deux facteurs de risque modérés, donc à savoir l'insuffisance cardiaque et puis l'hypertension artérielle. Donc, comme dit aux recommandations, donc un score CHATS supérieur ou égal à 2, donc risque ischémique quand même élevé, donc qui est de l'ordre de 4%. Parallèlement, on a le score hemorrhage. Donc, on retrouve donc une dame de plus de, donc, de 75 ans. Donc, plus, 74 ans. Donc, c'est pas là. C'est plutôt l'hypertension artérielle et puis les antécédents d'accident hémorragique. Ça fait 3 points donc, pour le score hemorrhage. Comparativement aux deux autres scores, c'est le score CHATS2, VASC2 et HAS-BLED. Donc, on retrouve donc dans le CHATS2 VASC une insuffisance cardiaque et l'hypertension qui fait 2 points. En plus donc de l'âge à 74 ans qui fait donc encore 1 point. En plus du sexe, ça fait 4 points. Donc, il représente donc plus de 4. Donc, ça fait un score ischémique théorique qui est relativement élevé, toujours à 4%. Et dans le score HAS-BLED, donc, qui est à 3. Vu la présence d'une hypertension artérielle, l'hémorragie ou l'anémie, plus l'âge qui est plus de 65 ans. Donc, ça fait donc un score à 3. Donc, ce qui nous donne un risque hémorragique théorique estimé à 3,74%. Effectivement, on peut se poser la question sur quel score utiliser, le score hemorrhage ou plutôt le score HAS-BLED. Étant donné que le score HAS-BLED fait l'objet de recommandations, la patiente est relativement jeune, moins de 75 ans, on voit bien que le risque est inférieur, le risque hémorragique est inférieur au risque ischémique chez cette patiente. Donc, nous avons introduit les AVK, qui a été donc validé par le cardiologue 15 jours plus tard, vu la présence de deux facteurs de risque modérés ischémiques. Donc, ce qui a été discuté avec le médecin traitant, déjà, bon, la décision a été prise avec le médecin traitant qui a été consulté. Et en même temps, on a mis en place donc, une molécule qui était plus stable, à savoir la coumadine, hein, donc, qui a une demi-vie de 5 jours comparativement au Préviscan, qui est le plus prescrit donc, d'après l'enquête de Lorraine Kropka.
Alors, juste repasse en arrière. Un commentaire par rapport à ce que disait le docteur de Romémont, c'est évident que si à la coloscopie on lui trouve un cancer du côlon, qu'on va l'opérer et qu'on va la guérir de son cancer, le problème est réglé. C'est que le risque, finalement, l'hémorragie est en rapport avec, le facteur hémorragique disparaît et on a tout à fait indication dans les AVK. Malheureusement, quand on fait beaucoup de bilans chez moi, parce qu'on reçoit beaucoup de patients anémiques avec des anémies ferriprives, et on ne trouve pas toujours un cancer, on ne trouve pas toujours un ulcère. En plus, il y avait une sérologie d'hélicobactères qui était négative. Juste en passant, la Société américaine de cardio recommande, quand on a des antécédents ulcéreux, de rechercher si on a une sérologie ou un test respiratoire positif à hélicobactères, pour la bonne raison que ça augmente le risque hémorragique lorsqu'on les met sous antiplaquettaire, hein, donc avant un traitement antiplaquettaire. Donc effectivement, là, le choix en fonction des critères qui ont été proposés, score de risque ischémique, score de risque hémorragique, il va en faveur des AVK. Bon, est-ce qu'il n'est pas bon de la mettre sous aspirine, sous héparine? Mais à ce moment-là, le choix, ça serait de la mettre sous calciparine, hein, 2 injections par jour au minimum, avec la surveillance du TCA. Tout ça en attendant d'avoir le résultat du bilan endoscopique. Bon. Mais souvent chez nos patients, le bilan endoscopique, il ne montre pas de lésions hautes ou basses. Et souvent, on a des lésions angiodysplasiques chez le sujet âgé, qui sont des lésions qui saignent et pour lesquelles on n'a pas beaucoup de solutions. Donc, c'était pour vous illustrer le fait qu'il n'y a pas de... je veux dire, de vérité absolue dans cette affaire. Il y a une décision qu'il faut prendre dans l'intérêt d'un malade, avec, vous avez bien vu, des risques ischémiques et hémorragiques qui sont corrélés. Hein. Il y a des facteurs communs. Donc l'un et l'autre augmentent, et donc il y a une décision fine. Or, la tendance, c'est quand même de laisser tout ça aux cardiologues. Et vous avez bien vu qu'avec le chat de vase que vont utiliser les cardiologues, vous maximisez le risque ischémique. Et avec la chaise bled, vous êtes toujours à 3. Alors à 3, on ne sait pas trop. Hein, est-ce que, voilà. Ce qui fait que de façon, on a fait un travail, dont Michel n'a pas parlé, mais parallèlement au travail fait en médecine générale, on a fait un travail dans notre service. Et on s'est aperçu que de temps en temps, il y a des décisions qui sont aberrantes ou paradoxales par rapport au score. Parce qu'on a tenu compte de l'état du malade et parce qu'on était plus sur le versant ischémique ou plus sur le versant hémorragique. Donc ça reste quand même assez subjectif, tout ça. Néanmoins, les scores sont là pour nous aider dans la décision. Mais ce n'est pas quelque chose d'absolu. Je crois que c'est vraiment un message assez fort. Alors, on continue.
Donc, deuxième situation clinique. Donc, Madame B, qui a 79 ans, qui a été adressée donc, par le centre hospitalier de Saint-Dié pour prise en charge d'une thrombopénie assez sévère à 7000 par 1000 mètres cubes. Donc, c'est une dame qui présentait un PTI cortico-sensible depuis 2004 avec plusieurs récidives depuis 2009 qui a justifié 3 cures d'immunoglobuline par voie veineuse. La dernière s'est soldée malheureusement par une intolérance avec un œdème de Quick. Il s'agit d'une hypersensibilité. Donc probablement. La dame donc, à Saint-Dié a reçu des bolus de solumédrol à raison de 90 mg par jour pendant 5 jours avec une transfusion de plaquettes, puis adressée en médecine H. L'INR à l'entrée était à 2,7. Parmi ses antécédents, on retrouvait un syndrome coronarien donc sans sus décalage d'ST avec une ACFA en mars 2009, donc justifiant une angioplastie avec mise en place d'un stent non actif sur sténose de la deuxième marginale circonflexe avec donc un traitement préconisé, donc une trithérapie. Diabète type 2, une hypertension artérielle, une hypothyroïdie, une obésité, hernie discale et des crises convulsives post-traumatiques, post-traumatisme crânien en 1959. Donc, on ne retrouvait pas d'intoxication thylotabagique, bon, en plus de l'allergie à la tégéline. Son traitement comportait une bithérapie anti-agrégante avec du préviscan. Les INR depuis mars 2011, donc on retrouvait sur 16 INR 11 en dessous de la fourchette thérapeutique, 2 au-dessus et 2 INR qui étaient dans la fourchette cible. La dame était sous insuline pour son diabète, donc elle prenait des corticoïdes pour son PTI. Elle avait donc une trithérapie antihypertensive comprenant un IEC, un inhibiteur calcique, donc un bêta-bloquant. Donc elle était sous levothyrox pour son hypothyroïdie, danatrol pour le PTI et le gardénal pour ses crises convulsives. Donc, à l'arrivée dans le service, la patiente était stable sur le plan hémodynamique. Elle avait un état cushingoïde en rapport avec donc plutôt cortico-induit. Un saignement cutané avec un purpura ecchymotique généralisé donc était retrouvé, mais sans saignement muqueux. Sur le plan biologique, on retrouvait une anémie, une légère anémie à 11 grammes avec une tendance à la microcytose et hypochrome, avec une carence donc d'origine carentielle. La sérologie HP était positive. Les plaquettes donc, étaient à 7000, bilan hépatique était normal, fonction rénale, on retrouve une insuffisance rénale modérée, une HbA1c qui était à 7,5. Elle avait bénéficié d'un électrocardiogramme qui retrouvait un rythme sinusal régulier, l'holter ECG qui était réalisé à Saint-Dié donc montrait toujours un rythme sinusal, l'échographie ne retrouvait pas de dilatation de l'oreillette gauche ni de cardiopathie emboligène, la FE était conservée. Elle avait bénéficié d'un échodoppler artériel des trans supraaortiques et membres inférieurs qui retrouvait un athérome bilatéral au niveau du bulbe avec une sténose à droite à 40% et un athérome vertébral. Et en plus, au niveau des membres inférieurs, donc une athéromatose étagée. Au fond d'œil, donc, on retrouvait des micro-hémorragies bilatérales donc, entrant dans le cadre d'une rétinopathie diabétique et la gastrocolo est en cours. Donc, si on observe bien les deux scores chez cette patiente, donc le score CHADS2, donc on retrouvait donc l'hypertension artérielle, l'âge qui était supérieur à 75 ans et le diabète donc qui était présent. Donc, on a trois facteurs de risque modérés, ce qui confère un score CHADS2 à 3, donc avec un risque ischémique élevé. Comparativement au score hemorrhage, qui retrouvait donc l'âge supérieur à 75 ans, l'hypertension artérielle, la présence d'une anémie, d'une thrombopénie, avec un accident, un antécédent d'accident hémorragique, avec un score hemorrhage à plus de 6. Concernant les deux autres scores, CHATS-VASC et HAS-BLED, on retrouve donc au CHATS de VASC une hypertension, l'âge et le diabète, en plus donc du nouveau facteur, donc l'IDM, AOMI et la plaque d'athérome, en plus du sexe féminin, donc ce qui nous fait un score à 6, avec un risque ischémique également élevé. L'HAS-BLED, donc un score à 5, risque également élevé. Donc qu'est-ce que vous faites dans cette situation ?
Il n'y a pas du compte du fait que l'AFA elle est la résolutive, persistante, chronique ou du
non, type alors effectivement, ACFA permanente ou c'est paroxystique, c'est quasiment le même risque ischémique. Donc c'est plus un débat actuellement.
C'est une ACFA paroxystique contemporaine du syndrome coronarien.
Syndrome coronarien, on a vu l'anémie. Sauf il y a l'hyperthyroïdie et la consommation d'alcool, où ça, c'est bien sûr, c'est potentiellement curable. En tout cas, l'alcool, il suffit de se sevrer. La thyroïde, il y a des traitements. Et c'est à hyper débit hein, pour l'hyperthyroïdie. Hein, donc
ils ne sont pas sur cœur sain, là. Ce n'est pas des cœurs sains.
Purpura thrombopénique
idiopathique. C'est l'ancien purpura thrombopénique idiopathique qu'on appelle maintenant immunologique parce qu'on sait qu'il est d'origine immunologique.
Alors, personne n'a fait un commentaire sur la belle ordonnance. Alors la réponse est, elle a une épilepsie post-traumatique depuis 1959. Ouais, depuis, elle n'a plus refait de crise et c'est une bonne question puisqu'on en parle après. Alors ouais. C'est une bonne remarque sur l'ordonnance.
Et puis vous avez vu la problématique des INR. Hein. 3 fois sur 16, elle est 3 fois sur 11 ou 16, je ne sais plus. Enfin bref, dans
2 fois sur 15, elle est dans la fourchette.
2 fois sur 15, elle est dans la fourchette.
Elle
est tantôt en dessous.
Et 11 fois en dessous.
Surtout en dessous.
Donc on ne sait pas où est le problème. Est-ce que c'est la patiente ? Est-ce que c'est le médecin ? Est-ce que y a un suivi ? Elle fait régulièrement ses INR. Est-ce que c'est les médicaments qui interfèrent ? Ou est-ce que c'est la patiente qui n'adapte pas alors que le médecin a téléphoné ? Enfin, oui, il y a quand même beaucoup de questions à se poser. On se les est posées du reste. Est-ce que le choix du préviscan est optimum ? Puisque finalement, on parle de la comadine. Voilà ce qui va animer la discussion.
Bon, donc on voit bien sur donc les recommandations du traitement du syndrome coronarien aigu. La patiente, effectivement, elle a présenté au mois de mars un syndrome coronarien sans sus décalage de ST avec un stent non actif. Donc la première remarque, c'était par rapport à ce stent. Donc d'après les recommandations, donc on a... Donc, le stent non actif, 4 semaines de trithérapie, donc warfarine, donc coumadine avec un INR cible entre 2 et 2,5, en plus d'une bithérapie anti-agrégante, à savoir de l'aspirine plus clopidogrel, donc justifié pendant 1 mois. Après, donc, ça sera plutôt donc, combinaison coumadine avec un INR cible entre 2 et 2,5, avec un seul anti-agrégant plaquettaire pendant donc 12 mois, soit le clopidogrel à raison de 75 mg ou l'aspirine à 100 mg. Ce qui n'est pas le cas chez notre patiente, étant donné qu'elle est revenue quand elle était adressée chez nous, 6 mois plus tard, elle avait toujours sa trithérapie. Au-delà d'un an, après, ça sera donc de la warfarine, en plus de la thrombopénie, oui, bien sûr. Donc ensuite, ça sera de la warfarine toute seule avec un INR cible entre 2 et 3. Sachant que l'INR à l'entrée était à 2,8 hein, chez cette dame. Donc effectivement, l'ACFA était paroxystique contemporaine du syndrome coronarien. Le score, on voit bien que le score CHATS-2 calculé était à 3 avec un risque ischémique élevé, donc plus de 2. En général, quand on a un CHATS-2 supérieur à 2, il n'y a pas de raison pour qu'on calcule le CHATS-VASC. Hein. C'est surtout entre donc quand il est inférieur ou égal à 1, c'est à ce moment qu'on calcule le CHATS-VASC pour nous orienter. Donc là, le risque est estimé à 9,8. Le score hemorrhage et le score HAS-BLED ont retrouvé des scores élevés également, donc avec un risque très élevé de l'ordre de 12%. On voit bien que le risque hémorragique est supérieur au risque ischémique.
Alors, que ferait la salle vu ces données ? Il y a 6 ou 9% de risque ischémique versus 12, 12,5. Hein, là, c'est concordant. L'âge est intermédiaire. Qu'est-ce que vous feriez ? en dehors de l'envoyer à l'hôpital. Maintenant que vous avez les items. Donc aspirine au long cours avec une dame qui est potentiellement un PTI, donc un risque de rechute de sa thrombopénie. Donc vous êtes cardiologique pur alors. Contrôle de l'INR.
Très bien.
Donc AVK, ouais. C'est pas simple. Autre solution. On peut ne rien faire aussi, décider de ne rien faire. C'est la troisième solution. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, Amine?
Donc, on a essayé de réduire le risque hémorragique.
Il n'y a pas de bonne réponse. Y a...
Donc, on a essayé de réduire ce risque hémorragique. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, le médecin, on a donc appelé le médecin traitant qui était d'accord pour le changement de la molécule, mettre en place une molécule beaucoup plus stable, donc à savoir la coumadine. On a arrêté le gardénal qui est un inducteur enzymatique. Donc, ce qui est raison pour laquelle on avait des INR en dessous de la fourchette thérapeutique. Et en fait, donc, ça fait donc, réduire déjà deux facteurs, donc l'INR instable et plus, donc, en plus des drogues qui faisaient donc, partie des critères de l'HAS Blend. On a traité le purpura thrombopénique idiopathique selon le protocole par rituximab, ce qui réduit encore un facteur de risque hémorragique, donc qui est la thrombopénie. La patiente donc, a bénéficié d'un traitement d'éradication d'Helicobacter pylori. Elle a été supplémentée en fer et bien sûr, donc, elle aura sa gastrocoloscopie. On a devant nous le score hémorrhage avant correction des facteurs de risque et après correction des facteurs de risque. On voit bien que donc, l'hypertension reste, l'âge reste. Par contre, donc, on a réduit donc, l'anémie qu'on a traitée en plus de la thrombopénie. Donc, le risque a été réduit de 12% à 10%. Comparativement au score HAS Bled, le risque était de 12,5%. En traitant donc, l'anémie, en traitant l'INR instable, en arrêtant progressivement le gardénal, le score donc, est passé de 5 à 2 et le risque de 12,5 à 1,88. Donc, après discussion avec les cardiologues, le risque ischémique, d'après eux, le risque ischémique prime sur le risque hémorragique en agissant sur les facteurs de risque hémorragique. Donc, indication à poursuivre les antivitamines K et arrêter le clopidogrel. Voilà, donc c'est pas très, très simple effectivement, mais on peut éventuellement agir sur ces risques hémorragiques.
Il est élevé, mais le risque hémorragique reste encore important.
Alors, on ne peut pas toujours corriger, mais on voit qu'en se réunissant à plusieurs, en utilisant les compétences de chacun, on peut réduire éventuellement ce risque. Et quand on peut réduire, on ne réduira pas le risque ischémique ici, hein, mais quand on peut réduire le risque hémorragique, on peut éventuellement. Et par rapport aux INR, l'hypothèse qui est ici, c'est qu'avec la coumadine, et après avoir arrêté le gardénal, on aura une meilleure équilibre thérapeutique. Mais là encore, c'est vous qui avez la réponse, hein, parce que c'est vous qui suivez le patient et qui allez continuer à le prendre en charge. Donc vous voyez, c'est tout ça n'est pas. Là, on n'est pas dans le domaine factuel, hein, on est dans le domaine de la discussion, mais c'est des situations auxquelles on est confronté. Donc ça nécessite d'en parler, ça nécessite pas seulement d'en discuter avec son cardiologue, mais d'en discuter avec tous ceux qui sont intéressés par la problématique.
C'est important vraiment de montrer que les deux scores, ce n'est pas du tout les mêmes populations. On a vu hémorragie chez 80 ans, HBLED c'est 66 ans. Et quand vous avez une patiente qui est entre deux, ben, on ne doit pas privilégier un score. Si ce n'est que la recommandation, c'est de faire HBLED. Mais bon, c'est parce que là, il y a les INR. Hein, voilà. AVK dans l'étude Roquette et AVK pour la Pixaban. Et une fois versus aspirine. Alors, donc là, c'est comme pour les autres études. L'âge moyen, ben, il ne répond pas à notre demande. Hein. C'est toujours des patients entre deux, 71 ans. La proportion de sujets de plus de 75 ans, elle n'est pas toujours évaluable. Bon, en regardant les bases, on trouve ici 40%. Ici, c'est des 78 ans, un quart. Et ici, 75 ans, un tiers. Pareil pour la Pixaban. Les posologies, alors ça c'est quand même intéressant, nous aurons une réponse puisqu'il y a une adaptation soit à la clairance, soit à l'atteinte hépatique, en fonction donc soit de la créatinine sur ces travaux, soit sur la clairance de la créatinine pour la Pixaban. le score utilisé, et donc c'est des études bien sûr qui sont récemment publiées, donc c'était CHAST, avec un score qui est finalement pas très élevé, hein. Ils n'ont pas pris des malades très lourds, on est tout juste à 2, ici un peu plus élevé, hein, des malades un peu plus sérieux, hein. Donc on verra bien que les résultats ne sont pas tout à fait les mêmes, avec une adaptation postologie chez les patients donc avec une insuffisance rénale ou une atteinte hépatique, et chez les sujets âgés de plus de 80 ans ici, ou de faible poids, en dessous de 45 kg. Je crois que cette molécule, elle est intéressante. En tout cas, le design est intéressant. Alors, que font chacune des molécules? Alors, c'est bien sûr pas un tableau comparatif. C'est bien sûr pas les mêmes populations. On peut pas dire que celle-ci est meilleure que les deux autres. Globalement, si on prend celle qui est en voie de commercialisation, puisqu'il y a déjà une autorisation américaine et européenne, on attend l'acceptation d'un prix. C'est que à la posologie donc de 150 versus AVK, ça fait moins d'AVC, mais à 150, ça fait autant d'accidents hémorragiques. Donc la FDA a retenu uniquement la posologie de 150 pour encore, puisque c'est effectivement l'objectif, c'est de réduire l'incidence des AVC, et n'a pas retenu la posologie de 110, qui moi m'irait bien, qui fait aussi bien en termes de réduction des AVC et qui fait moins d'accidents hémorragiques majeurs. Je rappelle, soit c'est épisode transfusionnel ou dans des endroits pour lesquels on ne peut pas comprimer, donc c'est les hématomes, etc. Et par contre, les deux posologies de la même molécule réduisaient les accidents hémorragiques. Donc on voit quand même que c'est vraiment un plus pour ces nouvelles molécules, en sachant quand même que la tranche à haut risque, c'est les plus de 75 ans, était représentée, mais que 40%. La deuxième, c'est Rocket, le Rivaroxaban, pardon. Là, c'est pareil, il y a deux posologies. Les chats sont un peu plus sérieux, hein, donc on a quand même une population plus proche de la réalité, celle qu'on vous a montrée à travers les deux observations. Ça ne fait pas mieux sur le plan des AVC, donc le risque ischémique est pris en compte, et c'est une population plus sérieuse. Ça fait mieux sur le plan des hémorragies cérébrales, puisque c'est celles-là qui sont quand même mortelles, et les hémorragies majeures non cérébrales, c'est équivalent. Donc on voit bien que là, on a deux molécules et ça va dépendre de qu'est-ce qu'on va vouloir privilégier. En tout cas, donc vous allez pouvoir avoir des prescriptions optimisées en fonction du patient. L'apixaban, dans un premier papier, donc c'était début d'année, s'est comparé à l'aspirine. Donc là, il y a une petite... on n'a pas trompé les médecins, mais bon, c'était en disant si le malade ne supporte pas les AVK. Bon, alors finalement, c'était une espèce de grosse soupe. On pouvait y mettre n'importe quel patient. On a bien vu qu'ici, on a des INR qui sont tout juste à 2, donc probablement une population de patients qui n'est pas très à haut risque. Bon, toujours est-il que ça fait mieux que les AVK. Ça fait équivalent en termes d'accident. Ça fait mieux que l'aspirine, bien sûr. Merci. Ça ne fait pas moins saigner, par contre, que l'aspirine. Donc l'aspirine fait saigner, hein, ça c'est important, y compris dans la tête. Plus intéressant, donc, c'est la dernière publication qui a donc un trimestre, l'Aristolt, apixaban, 30% de patients de plus de 75 ans, deux posologies en fonction de la créate, l'atteinte hépatique, le poids et l'âge, et fait mieux sur les trois items. Voilà, mais... On ne peut pas dire que ça, c'est la meilleure molécule. Hein. C'est bien sûr, c'est des études complètement différentes. Voilà, donc ça, c'est l'avenir, entre guillemets. L'avantage, c'est prise orale, donc en deux prises, hein, donc on a vu. Demi-vie très courte, quelques heures, donc moins de 12 heures pour la plus longue. Les doses sont fixes une fois que vous avez trouvé la bonne dose, c'est fonction du poids, etc. Le coût est élevé. Alors, on n'a pas encore le coût, mais on sait bien que pour dans la prévention de la thrombose chez les patients qui ont des prothèses, c'est bien sûr plus cher que l'aspirine ou que la coumadine. À contrebalancer l'absence de suivi, on ne fait pas de NEF, on ne fait pas d'INR. L'AMM a été donc reconnu pour le Pradaxa, donc c'est le dabicatran. Il n'est pas encore remboursé, donc on attend le coût pour cette molécule. Alors, dans les recommandations américaines qui ont pris en compte cette molécule, hein, c'était publié donc, cet été, c'est de dire on prend les 150, l'Europe prendra probablement les deux molécules, et on n'arrête pas les AVK quand le patient est bien équilibré. Hein, donc, ce n'est pas d'emblée, on switch tous nos patients. Malheureusement, comme c'est des molécules, on ne surveille rien, il n'y a pas d'antidote. Alors, à contrario, ça fait moins saigner et on se dit qu'au bout de 12 heures, le produit est éliminé. Donc, c'est un bénéfice-risque. Il n'y a pas assez de recul. Hein, pour nous, on ne fait pas la promotion, bien sûr, de ces molécules. En pratique clinique, puisque c'était des patients triés, vous avez vu, les INR étaient proches de deux, et la population à très haut risque, donc les sujets âgés, étaient peut-être sous-représentés, hein, on va dire ça comme ça. Voilà, donc c'est un clin d'œil sur l'avenir. Conclusion, la population âgée et fragile est peu représentée dans les grands essais. La peur du risque hémorragique est réelle, elle entraîne une sous-utilisation des AVK. L'utilisation maintenant combinée des deux scores va vous permettre de mieux apprécier le bénéfice-risque pour chaque molécule. Deux scores sont maintenant proposés, reste à les valider en pratique quotidienne, en particulier en médecine générale. Ce n'est qu'un outil, on l'a rappelé, ce n'estime que de 60 à 70% le risque théorique. Donc d'autres items doivent y figurer. Et c'est grâce à la connaissance du patient, son entourage, que le médecin généraliste sera un bon interlocuteur avec son correspondant, ici le cardiologue, plutôt que le spécialiste hospitalier. Merci pour votre...
Alors, c'est à considérer l'apport quotidien de vitamine K alimentaire. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez l'expérience ou est-ce que c'est quelque chose dont vous savez qu'il a été publié des études ou à propos de l'apport alimentaire?
Alors ça, c'est une très bonne question. On la rencontre quotidiennement, quelle que soit la population, bon, en particulier sujet âgé, sujet dénutri. Je ne l'ai pas mis dans les plaques, mais dans les facteurs de risque des accidents hémorragiques, c'est dans les 6 premières semaines. C'est à l'introduction des AVK. L'origine nutritionnelle est bien sûr un poids lourd. Certains gériatres disent qu'il faut donner systématiquement de la vitamine K, sans forcément faire des dosages, des facteurs, etc., avant d'instaurer la coumadine ou le préviscan. Moi, j'ai un deuxième argument, il faut voir aussi qu'ils sont dénutris. Et comme la molécule est portée par l'albumine, dans les bilans dénutrition, on est parfois amené à donner un complément en albumine pour partir sur des posologies standards, 2, 3, 4 mg de coumadine. Donc c'est une très bonne remarque. Là-bas que je vous ai montré, la restriction, c'est l'INR de départ, il est inférieur à 1,3. Normalement, l'INR, il est à 1. Si l'INR est déjà décroché à 1,2, ça veut dire que soit il a pris récemment des AVK, donc on fait le switch préviscan coumadine, soit effectivement, comme vous l'avez suggéré, il est dénutri et il manque de vitamine K. Donc on donne une ampoule pendant 2-3 jours et l'affaire est réglée. Mais après, ça ne règle pas le déficit nutritionnel quotidien. Hein, on est bien d'accord. Ou la variation de l'apport avec la vitamine K quand on est en institution.